Réplique, le goût de la vie intense avec Claude Habib et Tristan Garcia. Comme le relève François Furet au début du passé d'une illusion, tout le monde, dans la société moderne, est l'ennemi du bourgeois, y compris le bourgeois lui-même. Même pour ceux qui n'aspirent en aucune façon à changer le monde, l'embourgeoisement n'est pas, comme pouvait l'être l'anoblissement, un rêve, un mirage, un objectif, une ambition, mais un repoussoir. La vie intense, telle est, soutient Tristan Garcia dans son dernier livre, l'idéal et même l'obsession des modernes. Où mène cette obsession et est-elle vraiment universelle? C'est ce que je demanderai à Tristan Garcia et à Claude Habib, qui, dans Le goût de la vie commune, a eu l'audace d'évoquer la fécondité de l'ennui et de citer l'éloge par son cher Rousseau, d'une vie simple, égale et routinière. Mais d'abord, Tristan Garcia, c'est quoi une vie intense?
Au sens strict, tel que j'essaye de la prendre dans l'ouvrage, c'est une idée très simple, un peu moins qu'une obsession, je dirais. Pour moi, c'est une promesse. C'est une promesse qui est formulée par la société européenne à partir du XVIIIe siècle, qui est la promesse faite à des vies et faite à des corps, de recevoir plus de la même chose et non pas autre chose. Donc c'est une promesse qui vient s'inscrire dans une histoire bien connue de la laïcisation et d'un échec progressif de la société européenne à permettre des formes de transcendance ou à promettre des formes de transcendance aux individus. Donc quand on n'est pas capable de promettre à des corps individués autre chose que ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire des sentiments, des affects, des perceptions, de la libido, ben on leur promet plus de la même chose. Et on leur promet plus de la même chose, évidemment, ensuite, sous différentes formes. Hein. Ça peut être la forme de la variation, la forme de l'augmentation, la forme de l'accélération, de la progression. Mais simplement cette idée. L'idée, voilà, de promettre, non pas autre chose, tout autre chose, mais promettre ce qui est déjà là, un corps, et un corps qui est traversé par des intensités organiques, des intensités physiologiques, et une augmentation ou un affinement, ça peut être une intensité qualitative aussi, pas seulement quantitative, donc une augmentation ou un affinement de ce qui est déjà là.
On ne promet plus autre chose dans une société sécularisée parce que autre chose, c'était, si je vous comprends bien, une autre vie possible, une transcendance qui avait le visage, si je puis dire, de l'au-delà.
Ça pouvait être une promesse religieuse, mais j'essaye d'allier à cette promesse religieuse un certain nombre de promesses philosophiques classiques aussi, qui sont des promesses de désintensification. La promesse de l'ataraxie chez les stoïciens, la promesse de l'égalité de l'âme face aux passions, face à tout ce qui vient du corps, face aux intensités corporelles en général. Donc c'est une promesse aussi de sagesse qu'on trouve alors en Occident chez les stoïciens ou encore chez Descartes, hein, dans les passions de l'âme. Puis c'est aussi une promesse qu'on trouve dans des sagesses orientales ou une bonne image de promesse de désintensification, hein, d'autre chose, de neutralisation. C'est la promesse bouddhiste, c'est la promesse fondamentale de sortie du samsara, de sortie des hauts et des bas de la vie organique, des cycles de la souffrance. Et c'est le fait qu'est promis à l'individu une égalisation de soi et un horizon qui est autre que la simple variation des intensités physiologiques.
Claude Habib.
Oui, c'est très frappant ce thème de l'intensité et vous le faites jouer de manière très immédiate avec les publicités qui proposent toujours des goûts plus intenses pour le chewing-gum, machin chouette. Donc c'est très frappant. Comme toujours en histoire des idées, on se dit qu'on peut faire varier la borne, le terminus à court. Et moi, je me dis immédiatement, mais enfin, celui qui casse la baraque, qui en finit avec les grands ordres, l'aspiration vers le meilleur régime, l'ordonnancement politique, c'est Machiavel. Et donc, c'est deux siècles plus tôt. Donc, quand on regarde, si vous voulez, cette grande histoire de libération occidentale des passions, bon, vous commencez au libertin, on pourrait trouver à redire à cette borne. Mais sur l'importance du thème, j'en suis persuadée. Comme toujours, d'ailleurs, on peut raconter une histoire avec telle ou telle métaphore. Donc vous prenez l'électricité, Delon que vous citiez avait pris l'énergie, ce qui est très voisin. D'autres peuvent penser à la vitesse, vous parlez aussi de ça. Mais c'est bien ce mouvement d'éclatement des contraintes, d'éclatement de tout ce qui borne l'hétéronomie, la tradition, le rapport aux autorités, au salut qui est en cause.
Vous donnez une importance considérable dans cette généalogie de l'intensité, terme sur lequel nous allons revenir, à la découverte de l'électricité. Pourquoi Tristan Garcia?
Oui, ça,
quel est le sens de ce lien, selon vous?
C'est une idée très simple. Effectivement, vous avez raison. Un de mes buts est de produire un petit récit, un petit méta-récit. C'est ma manière d'essayer, dans mon champ philosophique, de sortir de ce qui m'a longtemps semblé être certaines impasses de la postmodernité, et notamment la condamnation des méta-récits. Donc je suis attaché au fait de refaire des récits philosophiques, dans ce qui me concerne. Donc, de m'emparer d'un concept comme celui d'intensité et de produire un récit, de raconter à partir de ça. Et mon récit est très simple et sans doute simplificateur. Il consiste simplement à dire qu'évidemment, l'idée d'intensité, elle est là dans la société européenne depuis longtemps, mais que quelque chose a surgi de l'alliance entre l'idée d'intensité et une image, et l'image de l'électricité. Et que si on s'intéresse au concept strictement d'intensité, le mot d'intensité existe, l'intensio, elle existe même dans la tradition scolastique, dans la tradition aristotélicienne, etc. Mais elle n'a pas exactement le sens moderne qu'on pourrait lui donner. Parce qu'à mon sens, il lui manque ce qui est un petit peu plus qu'une métaphore, ce qui est cette image saisissante de l'électricité, et il manque aussi la définition de l'intensité électrique, qui est la première fois aussi où on va, à partir de la fin du XVIIIe, quantifier une intensité, être en mesure de quantifier une intensité, ce que les aristotéliciens ou ce que les scolastiques n'étaient pas en mesure de faire. Donc intensité prend un terme très précis, du coup, dans l'électricité du XVIIIe siècle, avec une métaphore derrière qui est que l'intensité électrique est conçue sur le modèle de l'hydrologie, c'est-à-dire du débit. C'est les premiers textes qui essayent de caractériser l'intensité électrique. Le courant électrique vient remplacer, au fond, le courant, le flot de l'eau, qui était déjà une vieille image du devenir, et qu'on trouve d'ailleurs, me semble-t-il, chez Machiavel. La fortune est identifiée aussi au flot, à la rivière qui passe, et on peut essayer de produire ou d'établir un barrage pour l'arrêter, mais elle va toujours se détourner. Mais ce flot prend dans la science occidentale un autre tour avec l'apparition du flux électrique.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Bien entendu, le choix entre une vie intense et une vie obscure, c'est le choix qui est offert à Achille, la vie longue et obscure ou la vie glorieuse et intense. Donc c'est une question qui est ancienne. Évidemment, ça rejoint le jeunisme de notre société. Le fait de préférer l'intensité, c'est quelque chose qui doit vous irriter, Alain, légitimement, parce que c'est quand même la préférence pour l'énergie juvénile. Cette métaphore de l'électricité que vous développez très gracieusement du bassin de Mesmer à la guitare de Jimi Hendrix, elle est convaincante parce que on voit l'électricité dans la fée électricité de Dufy, on voit l'électricité chez Apollinaire, donc c'est très joliment fait. Mais quand même, quand on regarde certaines articulations entre le libertinage et le romantisme, j'ai quelques problèmes.
Alors justement, pour essayer de réfléchir à cette articulation. Alors je voudrais vous dire d'abord, Claude Habib, que je ne suis pas un adversaire de l'intensité, même si la promotion de la jeunesse à titre d'idéal, la jeunesse n'étant plus un âge de la vie, mais un mode d'être et même un modèle d'existence, tout cela me semble un peu problématique. Ce qui me gêne cependant, et en vous lisant et en vous écoutant, Tristan Garcia, l'intensité c'est plus de la même chose, c'est le caractère solipsiste et, si j'ose dire de manière un peu polémique, onaniste de l'intensité ainsi exprimée. Vous avez cité le romantisme, Claude Habib. Au cœur du romantisme, il y a cette valeur des valeurs pour les modernes, l'amour. L'amour intensifie l'existence, mais précisément parce qu'il libère le moi de soi. Dans l'amour, un être arrive et c'est une forme de transcendance post-religieuse. Et je voudrais vous lire à cet égard un petit passage du traité des vertus de Jean Kelevitch. « Il est moral d'aimer quel que soit l'aimé, et même si l'aimé n'est pas aimable, dit-il. » Je ne suis pas forcément d'accord avec cela, mais peu importe. Et sa justification est extrêmement intéressante. Une fois au moins dans sa médiocre vie, l'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, aura connu la grâce de vivre pour un autre, pour une femme. Aussi se rappelle-t-il avec une reconnaissance infinie cette courte saison de sa jeunesse où il fut, comme tous les amoureux, vrai, naturel et désintéressé, où pendant quelques semaines au moins, il cessa d'aimer l'argent, oublia de revendiquer ses droits et d'éblouir la galerie, se révéla modeste et spontané, n'eut d'autres soucis en ces jours bénis que le bonheur de quelqu'un, d'autres plaisirs que les plaisirs d'un autre, se réjouissant de sa joie et souffrant de ses peines, craignant de sa crainte et espérant de son espoir. Il n'est presque personne, même parmi les plus flétris et les plus déformés, qui ne soit momentanément redevenu simple et authentique pendant ces années. Il n'est pas de bourgeoise conventionnelle qui n'y tue ainsi sa minute d'innocence et d'intensité passionnée. Voilà l'intensité, mais l'intensité reliée à l'émerveillement de l'altérité. Pas l'intensité comme plus de la même chose. Tristan Garcia.
Je pense effectivement qu'il y a au fond deux approches possibles devant ce concept, comme devant en général toutes les grandes promesses modernes. Il y a une approche qui est une approche morale, qui consiste à trier, à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, et donc à essayer, par exemple sur l'intensité, d'aller retrouver des bonnes intensités et de trouver des mauvaises intensités, ou de trouver des sujets de l'intensité qui seraient par exemple un sujet individualiste, libéral, etc., et un bon sujet de l'intensité qui serait soit un sujet amoureux, soit aussi un sujet politique, un sujet collectif, etc. Ça a évidemment existé dans la modernité. Il y a aussi des intensités collectives. Hein. Il y a une histoire de l'usage du terme même d'intensité dans l'enthousiasme révolutionnaire. Déjà, c'est chez Chénier, ou dans l'enthousiasme même des révolutions du XXe siècle. Il y a une autre approche qui est celle qui m'intéresse, qui est une approche, à mon sens, éthique et non plus morale, ou qui correspondrait à ce que... Vous savez, il y avait cette distinction classique dans l'histoire du marxisme, et chez Marx, entre la critique interne et la critique externe. C'est-à-dire à produire une critique interne du concept, à accepter l'intensité. Moi, j'ai pas de critique morale à opposer à l'intensité. Hein. Je sais pas, je suppose qu'il y a des bonnes intensités, des mauvaises intensités. Je suppose qu'il y a des intensités individuelles, des intensités collectives, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre la promesse moderne et d'essayer, à l'intérieur de cette promesse, de voir comment elle fonctionne et de voir les impasses qu'elle produit, de voir de quelle manière elle est contre-productive. Donc le but du livre, rhétoriquement, est très simple. Il s'agit, au fond, de prendre au pied de la lettre certaines promesses modernes, et telles qu'elles se sont ensuite exprimées dans mon champ, qui est plutôt la philosophie. Il y a eu des philosophies de l'intensité, donc Deleuze, mais aussi avant Bergson et avant Nietzsche, et de les prendre au mot, c'est-à-dire de voir ce que produit dans la pensée une absolutisation de la valeur de l'intensité, et de voir, au fond, en continuant à tenir ce qui est mon cas, je reste un moderne, je reste, au fond, je suis assez fidèle à la promesse d'intensité, sauf que je crois que l'affirmation de l'intensité va contre la promesse d'intensité, produit le contraire. Donc ce qui m'intéresse, je comprends tout à fait, et pour moi c'est pas exclusif, qu'il y ait d'autres approches qui soient des approches morales, qui aillent opposer à des mauvaises intensités, des bonnes intensités, ou des intensités oubliées, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est à l'intérieur de toute intensité, bonne ou mauvaise, de comprendre la logique à l'œuvre et de voir pourquoi son affirmation produit en fait sa négation.
Oublions le titre « Traité des vertus ». J'ai du mal, moi, à penser l'intensité indépendamment de ce qui la provoque. Voilà pourquoi je parlais de l'amour, de l'importance qu'il a pour les modernes. Si vous voulez, ça c'est une forme d'intensité dont on sait que voilà, c'est pas simplement une intensification artificielle, électrique, etc. C'est quelque chose qui est lié à l'altérité. C'est ce moment où l'on se sent merveilleusement délivré de soi-même.
Qui se définit par l'autre. Et c'est pour ça que moi j'ai une petite réticence devant l'histoire que vous proposez, c'est-à-dire une histoire qui est l'histoire de la libération progressive, d'abord par le libertinage, la libération du désir, et puis ensuite libération de la passion. On a l'impression que c'est la même chose, passant à un régime supérieur, et que le romantisme, voilà, c'est le passage au rapport à la nature, mais conçu comme caisse de résonance de cette libération passionnelle. Or, moi qui travaille plus près dans cette articulation de Rousseau à son temps, je vois bien que c'est une fracture et que c'est pas la même chose en plus fort, mais c'est tout autre chose que la passion qui va nous définir et qui va nous définir comme, selon le modèle de l'amour unique et de la vie conçue comme exégèse de cet instant où tout est contenu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce que vous appelez le primavérisme, hein, dans cet instant T
Primavérisme, c'est-à-dire la première fois.
La première fois, le culte de la première fois. Mais bon, si vous prenez Rousseau au sérieux, il peut pas y avoir 36 premières fois. On peut pas se reprendre. C'est la vie qui germe à partir de cette magie de leurs yeux se rencontrèrent. Alors, pour vous, c'est mis en série. Alors, sans doute, si on se place du point de vue de Sirius, on peut le voir comme ça. Moi, j'ai du mal, parce que je suis d'accord avec Alain Finkielkraut sur ce point. L'amour, c'est pas l'amour de l'intensité, c'est l'amour de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est une forme de vie qui enclôt l'intensité, la comprend et l'ordonne.
Oui. Tristan Garcia.
Je précise que les exemples que je prends de figures ou de héros de l'intensité moderne, le libertin, le romantique, ou même disons l'adolescent tel qu'il est créé par le rock du XXe siècle. D'abord, c'est pas du tout une construction exhaustive, c'est pas une sorte de construction hegelienne où il y aurait des figures qu'on pourrait déduire les unes des autres, etc. D'abord, c'est pas mon champ en fait de spécialité. Ce sont plutôt des exemples. Ce sont des exemples pour montrer quel type d'héroïsation il y a eu de subjectivité, de type de subjectivité moderne lors des trois derniers siècles, qui ont été conçus comme des héros de l'intensité. Et c'est simplement pour venir soutenir une thèse, à mon sens, qui est que le concept d'intensité tel qu'il se constitue dans la pensée européenne du 18e, hein, et tel qu'il affleure même de manière très abstraite chez Kant, chez Hegel, avait besoin de subjectivité concrète, de héros de l'intensité. Et c'est à ce moment-là que je prends comme exemple ou le libertin, ou le romantique, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est moins l'histoire de ces figures, hein, je vais les chercher comme des exemples, que l'histoire du concept. Et en effet, je tiens une sorte de thèse philosophique, et je comprends votre réticence à tous les deux, qui suppose que à chaque fois qu'on utilise ce terme, intensité, et pas seulement à propos des passions ou de l'amour, il y a quelque chose de commun. Donc c'est pas qu'un mot, il n'y a pas qu'un effet d'homonymie, il y a une logique conceptuel. Et que donc, quand on utilise ce terme aussi, par exemple, dans le champ de la connaissance, c'est-à-dire quand, au XXe siècle, par exemple, on va parler, je prends cet exemple, petit à petit, par exemple, le concept d'espèce dans la pensée du vivant ne va plus être pensable. On va penser la spéciation. C'est-à-dire, on va penser quelque chose qui est un processus, des oscillations, des modulations du vivant.
C'est le passage,
etc.,
à l'histoire.
Pas seulement.
Tout est entraîné dans l'histoire et il n'y a plus rien de fixe. Mais ça, c'est, je sais pas, depuis Vico jusqu'à...
C'est pas seulement l'historicité, en fait. C'est la valeur qui est accordée.
Il n'y a plus de nature, il n'y a plus de fixité naturelle et tout est pris dans
Oui, mais par exemple, vous voyez,
y compris l'univers.
Si on sort même des sciences du vivant, par exemple, dans toute la physique du XXe siècle, il y a une prime qui est donnée à des termes intensifs. Par exemple, dans la relativité, les lignes d'univers vont remplacer l'idée que l'univers est fait d'objets ou de substances, et tout ça va être remplacé par un vocabulaire dans l'épistémologie moderne qui est volontiers un vocabulaire de l'intensité. C'est-à-dire, le moderne finit par concevoir que ce qui existe réellement, pas seulement dans son corps,
ce sont des flux,
c'est des formes de devenir, ce sont des oscillations, des modulations, donc tout le vocabulaire de l'intensité. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette contamination par un principe implicite de la connaissance de soi, mais aussi de la connaissance du monde, du moderne, selon laquelle, quand on utilise un terme intensif, on est plus près de la vérité, on est plus près de la réalité. La réalité est faite d'intensité plutôt que de substance ou de...
Cher Tristan, vous prouvez trop, à mon avis. C'est la même chose, j'ai la même réticence quand vous dites, page 116, que c'est un idéal assez souple pour envelopper son contraire. Devant ce genre de pensée, j'ai toujours une réticence en me disant, voilà, maintenant, il n'y a plus de position possible, il n'y a plus de... de réfutation possible pour parler dans les termes de Popper, puisque l'intensité est partout, noie tout. Et voilà, moi, j'aimerais mieux résister en gardant quelques articulations qui me sont intelligibles.
Alors, je comprends, on peut vouloir résister toujours par l'idée de qualification, c'est-à-dire qualifier l'intensité. C'est pas n'importe quelle intensité, c'est telle intensité ou telle autre, etc. Mais, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas moi qui pense que, je sais pas, dans une sorte de mouvement hegélien, le concept d'intensité finit par tout englober. Ce qui m'intéresse, par exemple, très concrètement, si vous voulez, c'est pour revenir même au début de l'émission, c'est l'idée suivant laquelle intensité est un terme qui a fini par servir de transcendantal. C'est-à-dire, c'est un terme commun qui vient sous-tendre le discours d'ennemi idéologique. Et pour parler très simplement, c'est pour ça que ce qui m'intéresse en introduction, c'est de dire qu'intuitivement, intensité est à la fois, on le sait, hein, il suffit de chercher les mots-clés, par exemple, du langage publicitaire. C'est un des termes, c'est très facile, hein, il y a des clouds, il y a des nuages, etc. On voit quels termes sont favorisés par les publicitaires. C'est le terme clé des publicitaires, mais c'est aussi le terme clé de ceux qui s'opposent au monde marchand, au monde libéral. Et ça l'a toujours été. Le langage intensif, le vocabulaire intensif, c'est le vocabulaire rimbaldien, mais c'est aussi le vocabulaire, par exemple, pour prendre des exemples très concrets, c'est le vocabulaire hippie, c'est le vocabulaire rasta, tous ceux qui vont s'opposer à la quantification, mais aussi c'est le vocabulaire fasciste. C'est-à-dire, quand il s'agit de s'opposer à la marchandisation, à la libéralisation, à la quantification, etc., et à l'usage, à la fétichisation aussi des intensités et à leur quantification, on emploie aussi le terme d'intensité. Donc si intensité est assez souple pour produire son contraire, à mon sens, c'est très concret. C'est que c'est un langage partagé par des ennemis. Or, c'est toujours intéressant quand un même terme est utilisé par des ennemis idéologiques.
Oui, mais alors justement, qu'en faire de ce terme ? Je reste d'abord convaincu que il y a un lien entre la bonne intensité, si je puis dire, et l'altérité. C'est ce que démontre, me semble-t-il, l'expérience amoureuse. Et quand l'amour résiste à l'usure du temps, que l'intensité est là, c'est parce que l'émerveillement est là et la gratitude qui va avec. Voilà toutes sortes de mots auxquels que je voudrais ajouter à celui d'intensité. Mais vous avez parlé de politique, Tristan Garcia. Or, il y a un moment de compromission politique de l'intensité. C'est vrai, au XXe siècle. Et là, je citerai deux textes parus presque simultanément, Le Travailleur de Ernst Jünger et un article de Thomas Mann, Régénération de la bienséance. Dans Le Travailleur, Jünger s'en prend à l'effort du bourgeois pour calfeutrer hermétiquement l'espace où il vit contre l'irruption de l'élémentaire, cette aspiration à la sécurité, dont il dit effectivement que voilà, le XXe siècle, l'intensité de la guerre même, va complètement le changer. Et la même année, Thomas Mann, lui, s'en prend à ce qu'il appelle la doctrine biocentrique, où l'esprit joue le rôle de corrupteur, de désagrégateur et de fossoyeur. Il s'inquiète de voir que ce n'est plus la liberté, l'humanité, mais le dynamisme, l'instinct, la vie qui sont la monnaie linguistique courante. Il critique, il dénonce le culte unilatéral de la force vitale, du dynamisme biologique. C'est cela qu'il appelle le biocentrisme. Il invite, 1931, à un mouvement de défiance contre ce qui mène au règne ignoble et inouï de l'élémentaire. Il dit que ce mouvement devra s'accompagner d'une prise de conscience de la bienséance humaine et d'une renaissance de l'idée. Alors, ma question, c'est justement, que faire de cet héritage-là ? Nous qui voulons à tout prix rester des obsédés de l'intensité, Tristan Garcia.
Alors, vous avez raison, l'intensité fait partie des termes, il y en a d'autres, mais qui ont servi à borner, au fond, le royaume de la rationalité moderne et qui ont servi d'interface entre le rationnel et l'irrationnel. Intensité, d'une manière générale, d'ailleurs aussi dans la métaphysique, hein, c'est déjà le cas chez Nietzsche, par exemple, est un terme qui va permettre, en général, de signifier la valeur de ce qui n'est pas strictement évaluable numériquement, d'évaluer ce qui n'est pas quantifiable, et donc de servir de point de contact entre le mouvement d'expansion de la rationalisation moderne et en même temps l'au-delà de cette rationalisation, l'irrationnel. C'est un terme qui n'est pas tout à fait irrationnel, parce que intensité permet toujours de récupérer, au sens même de la rationalité instrumentale, de la mathématisation du monde, etc. Intensité permet de récupérer quelque chose, une modulation, une différence, et de la mesurer, donc de la rapatrier vers la rationalité. Mais en même temps, intensité fait toujours signe vers autre chose que du rationnel, du quantifiable, du dénombrable, de l'extensif, etc. Et donc, effectivement, intensité a été le fétiche dans un certain nombre de traditions, pas seulement dans la tradition fasciste, hein, dans des traditions, dans la tradition communiste aussi, mais même dans la tradition, dans une tradition libertaire, hein, par exemple, dans la pensée deleuzienne et post-deleuzienne, a été le fétiche à la fois de ce qui permet d'avoir un point de contact entre le rationnel et l'irrationnel, et le fétiche, d'une manière générale, voilà, de la possibilité d'attraper ce qui échappe à l'identité, ce qui échappe au nombre, ce qui échappe à la quantité, ce qui échappe à la construction du rationalisme moderne et derrière ça de la mécanique classique. Donc évidemment, il y a toujours deux bords, il y a toujours deux côtés par lesquels on peut prendre le terme d'intensité. Il y a le bord irrationaliste et il y a le bord rationaliste. Moi, mon idée, en effet, c'est que il faut tenir à ce concept contre lui-même. C'est-à-dire que si on ne dialectise pas ce concept, si on n'est pas capable d'opposer quelque chose à l'intensité se détruit. Mais si on se contente de nier l'intensité, alors aussi, on va retourner vers des promesses prémodernes qui vont nous faire abandonner la bonne part, pour le coup.
La bonne part de l'intensité.
L'intensité moderne.
Je suis pas sûre, c'est-à-dire que d'abord il y a des stratégies multiples pour refroidir l'intensité, que ce soit, l'éloge de la lenteur par Kundera, l'éloge de la fadeur par Barthes, l'éloge de la placidité des vaches par Alain Finkielkraut. Donc il y a mille façons d'échapper à ce destin. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce que vous proposez pour refroidir le système, si je puis dire, c'est la pensée. Et du coup, vous donnez de la pensée une image réfrigérée qui m'a complètement étonnée. C'est-à-dire que la pensée, c'est le règne de l'égal dans lequel il y a des sortes de concepts toujours pareils. Et on a l'impression que l'être pensant est un joueur d'échecs impassible comme les dieux d'Épicure. Et qui et de l'autre côté, il y a l'homme intense. Le sujet éthique, vous-même, dirait-on, est au milieu, sur la ligne de crête, entre ces deux postulation. Moi, ça m'a complètement étonnée parce que toute mon expérience de pensée, sans doute plus faible que la vôtre, ne correspond pas du tout à ce caractère d'abstraction glacée de la pensée. Et chez les penseurs que j'ai travaillés, je parlais de Machiavel tout à l'heure, mais Rousseau encore plus, on voit une pensée qui est passionnée, c'est-à-dire l'engagement dans la pensée n'a rien à voir avec cette froideur sublime que vous faites intervenir. Donc j'étais un petit peu étonnée de votre solution, si je puis dire.
Alors oui, je vous cite, parce que vous parlez d'une idée opposée à l'intensité, c'est la dernière partie de votre livre, Tristan Garcia. Posons provisoirement qu'on appelle pensée cette partie de certains organismes vivants qui ne se règlent pas sur des intensités, mais qui a pour principe le caractère égal de toute chose. La pensée, c'est ce qui au sein d'un être sensible ne sent pas, et vous dites qu'il faut définir la pensée par la recherche de l'égal plutôt que de l'intense. Et j'avoue aussi que j'ai été assez étonné par la radicalité de cette opposition.
Alors, effectivement, je comprends que ça puisse choquer. D'abord parce qu'on sort aussi d'un long moment dans lequel on a voulu faire l'éloge, parfois radical, parfois modéré, de la pensée vivante, hein, de la pensée charnelle. Il y a eu, même si on se limite au XXe siècle, il y a toute la tradition phénoménologique qui a voulu refaire de la pensée quelque chose de charnel, Merleau-Ponty, quelque chose de vivant, de vibrant, etc. Or, à mon sens, ce que je veux indiquer, c'est que je crois, mon livre est une tentative de petit dispositif pour indiquer une porte de sortie à ce qui me semble être un échec ou une fermeture, ou en tout cas un épuisement d'un certain nombre de projets modernes, dont celui-ci. C'est-à-dire, je pense que les tentatives pour unifier, au fond, pour échapper à ce qui est apparu au moderne comme une forme de schizophrénie intenable. Vous voyez, toutes les critiques, l'erreur de Descartes, la critique du dualisme, l'idée que opposer l'esprit et le corps, opposer la pensée et la vie était une erreur et une faute. J'essaye de montrer qu'à mon sens, ça amène à une sorte de dilemme où, à la fin, la colonisation de la pensée par les valeurs de la vie produit un effet contre-productif qui, à mon sens, est symétrique de la colonisation de la vie par les valeurs de la pensée. Donc je ne défends pas pensée...
Fort, hein, vous dites l'intellect qui est la part morte de notre corps.
Oui, mais je crois assez fortement que le seul moyen de sauver quelque chose, soit d'une sorte d'ingérence et d'hégémonie des valeurs du vivant qui porte avec elle l'intensification à terme et qui, à mon sens, fait s'épuiser la grande promesse moderne, qui est aussi d'avoir voulu, au fond, penser comme on vit. Et je suis très attaché au fait que la seule résistance éthique qu'on peut apporter, à mon sens, c'est d'arriver de nouveau à distinguer les deux, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, je défends pas du tout un idéal contemplatif, froid, etc. Je défends pas du tout l'idée selon laquelle, du coup, la pensée devrait s'imposer à la vie, mais simplement qu'il faut garder le sens de la distinction qui a été perdue.
La question que je me pose en vous écoutant est celle-ci. Qu'est-ce qui fait qu'on pense ? Deleuze, dans son livre Proust et les signes, dit que la pensée ne naît pas d'une bonne volonté de penser, elle est la recherche de la vérité et l'aventure propre de l'involontaire. Un événement fait effraction en nous, nous affecte et nous arrache à notre stupeur naturelle. Il cite Proust, les idées sont les succès d'années des chagrins. Et Hannah Arendt, dans un tout autre sens, nous dit « L'absence d'émotion n'est pas à l'origine de la rationalité et ne peut la renforcer. Pour réagir de façon raisonnable, il faut avoir avant tout été touché par l'émotion. Et ce qui s'oppose à l'émotionnel, ce n'est en aucune façon le rationnel, quel que soit le sens de ce terme, mais bien l'insensibilité, qui est fréquemment un phénomène pathologique, ou encore la sentimentalité, qui représente une perversion du sentiment.
Je peux en ajouter un. C'est Rousseau qui dit que la pensée est une fatigue et que la seule raison de se fatiguer à penser, c'est le désir. Nous fatiguons à penser que parce que nous désirons de jouir. Donc la pensée est complètement impliquée dans l'émotion, dans le désir.
Tristan Garcia.
Ce que je défends est d'abord en fait extrêmement matérialiste, c'est-à-dire que moi je suis très intéressé. J'ai toujours été du côté de pensée évolutionniste ou évolutionnaire. Donc, la cause matérielle de la pensée, pour moi, elle s'explique de façon évolutionnaire. Et c'est une fonction qui s'est développée chez certains organismes vivants. Et elle me semble plutôt bien étudiée par la psychologie évolutionnaire contemporaine. Mais ça, c'est sa cause matérielle. Si je devais dire sa cause finale, pourquoi on pense, mais au sens qu'est-ce qu'on vise quand on pense, à mon sens, c'est ça que j'essaye de défendre, on vise une résistance éthique. Et pourquoi on pense, à mon avis, on pense simplement pour opposer quelque chose d'autre, pour avoir autre chose que des intensités. Et pourquoi est-ce qu'on essaye d'opposer quelque chose aux intensités ? Pour soutenir les intensités. Parce qu'on ne soutient pas des intensités par d'autres intensités. On peut qualifier des intensités, etc. Mais il y a un moment où il y a une épreuve des intensités physiologiques qui est telle qu'on ne peut pas les soutenir à travers le temps si on ne dispose pas d'autre chose.
On comprend bien qu'il y a un risque du bris. Je crois que c'est vous qui citez une parole
de démesure, il faut toujours traduire.
Pardon, de démesure. Je crois que vous citez des paroles d'une chanson de rock qui sont très frappantes. « Give me all that I can take and then give me some more ».« Donne-moi tout ce que je peux supporter ». Et ensuite, rajoute-en une couche. C'est vraiment le désir d'être défoncé. Everybody must get stoned.
Hein. Et donc, Dylan.
C'est très bien de dire ça. Alors, vous cherchez un bord extérieur. Ce bord extérieur, il va être fourni par la pensée. Mais une pensée qui n'est plus légiférante. Une pensée qui ne règle pas la vie. et il faut résister à la tentation de se rendre cohérent. Il faut surtout pas vivre comme on pense. C'est cette séparation des deux qui me fait sourire, parce que moi je vois pas pourquoi je me donnerais un quart d'heure de peine si ça me sert à rien. Je reste dans l'optique classique qui est que la pensée sert à régler l'existence. Montesquieu, mon héros mental, dit c'est pas difficile d'être heureux, il suffit d'y réfléchir 10 minutes par jour. On n'a pas besoin d'aller dans un cabinet de travail pour ça, on peut être très naturellement en société, mais il faut 10 minutes par jour y réfléchir. Et c'est une leçon que je trouve absolument importante de la part d'un des grands agents de cette libération des énergies et du désir que vous disiez, parce que s'il y en a un qui a fait craquer le corset, c'est bien Montesquieu. Montesquieu disant c'est pas grave si une passion... On condamne les passions parce que les passions finissent par écœurer, etc. Mais en fait, il suffit de bien les gérer et de changer de passion à temps. Il suffit d'avoir un relais des passions. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que par la pensée, on peut régler sa vie. Et vous, qui êtes un être de la rébellitude, vous dites qu'il faut surtout ne pas remplacer... dans notre condition moderne, les anciennes lois par une autre inféodation. Fut-elle cette inféodation à ce que je pense ? Là, moi, ça me paraît vraiment une sorte de schisme, une sorte de dissociation où on penserait pour le plaisir de penser d'un côté et on vivrait pour le plaisir de vivre de l'autre, que je ne conçois pas. Si je me fatigue à penser, c'est bien pour régler ma vie.
Alors, je comprends. Évidemment, sur ce point, je vais être très très peu rousseauiste. Hein. Je vais être peu du côté de Montesquieu. Je suis attaché, en effet, alors ça se voit pas nécessairement, je le précise, ce livre s'inscrit dans une série de livres, pour moi, de trois livres qui ont été écrits en même temps, qui sont des livres qui n'ont pas forcément le même régime de discours, mais qui se suivront. Il y a un livre politique et il y a un livre métaphysique, donc il y a presque un à suivre, si vous voulez, à la fin du livre. D'où aussi l'ouverture sur la définition de la pensée, etc., qui ouvre sur le livre métaphysique. Alors, en métaphysique, je suis attaché à une tradition qui renaît depuis une dizaine d'années, qui est, après l'idée de la mort de la métaphysique, etc., de fait de revenir à une métaphysique. Mais c'est toujours mon but d'y revenir de manière non réactionnaire. C'est-à-dire y revenir en ayant pris les leçons des modernes. Et à mon sens, la leçon de la modernité, c'est le soupçon pesé sur le caractère hégémonique, par exemple, de la pensée systématique, de la métaphysique. Donc, je suis attaché au fait de revenir à certaines formes de définition très classiques de la pensée et de la capacité par la pensée, au fond, à échapper à certains régimes du désir, des affects, des passions, du corps, etc., mais à la condition expresse de produire, ce faisant, une pensée non hégémonique, c'est-à-dire une pensée qui, si on renoue avec cet idéal de la pensée, ne va pas venir s'imposer à la vie, aux intensités vitales, ne va pas venir légiférer sur le vivant. Et effectivement, mon but petit à petit, par ce type de geste, est de produire un type de subjectivité qui n'est pas nécessairement schizophrène, mais qui en tout cas, une subjectivité qui va être organisée de manière à résister à diverses tentations, de résister à la tentation de revenir à des valeurs prémodernes, mais de résister aussi à la tentation de continuer à épuiser des valeurs modernes. Et je pense qu'il y a un prix à payer pour ça, et notamment le prix à payer pour ça, c'est de réintroduire des distinctions d'ordre, notamment une distinction d'ordre entre un ordre de la pensée et un ordre de la vie.
Oui, mais...
La question étant, est-on prêt à payer ce prix-là en tant que subjectivité ?
Oui.
C'était à la fois libertaire et intimidant.
Ah oui, alors, c'est à mon sens totalement libertaire, et ensuite, c'est une proposition, c'est-à-dire que j'essaye d'arriver à concevoir un type de subjectivité qui pourrait se tirer, au fond, du mauvais pas ou de la tenaille dans laquelle la modernité ultra-finissante l'accule.
Oui, mais on peut toujours se poser la question, à quoi bon penser, à quoi bon lire, si ce n'est pas pour nous aider à comprendre la vie, à appréhender les choses, à voir mieux le monde, à nous éclairer, à élargir notre mentalité, et ainsi, malgré tout, à vivre mieux. Et il y a un mot que je comprends pas très bien, Tristan Garcia, vous dites définir la pensée par la recherche de l'égal plutôt que de l'intense. Mais pourquoi l'égal ? La pensée ne cesse de discriminer, vous dites vous-même, elle fait des distinctions. du vrai et du faux, du beau et du laid, de l'original et du rebattu, etc. Et de ces distinctions, notre vie a besoin. Donc ce mot égal me laisse un peu perplexe.
Je comprends, mais voyez, vous touchez exactement au point où j'aimerais produire petit à petit un petit modèle de subjectivité, qui est celle que j'essaye de construire, qui est précisément la distinction entre deux termes que vous avez utilisés, la distinction et l'égalité. Si je vais résumer une sorte c'est toujours bête d'employer un mot d'ordre, mais malgré tout une sorte de mot d'ordre du travail que j'essaye d'effectuer, c'est défendre chaque fois, dans tout domaine, l'idée qu'il est possible de penser distinctement mais également mais distinctement. Donc d'opérer une dissociation en fait entre distinction et discrimination ou hiérarchisation. Donc disons, si vous voulez, contre toute forme de modernité, puis de post-modernité ou d'ultramodernité ou de post-contemporain, etc., je suis opposé à l'idée suivant laquelle l'égalité entraînerait l'indistinction. Donc je suis attaché à la valeur de distinction. Mais étant attaché à la valeur de distinction, là où je ne suis absolument pas du côté de la réaction, si vous voulez, c'est que je pense qu'il est possible de tenir la distinction et l'égalité. En tout point, vous voyez, je ne sais pas, esthétiquement, je suis attaché par exemple à la distinction entre les arts, la distinction entre la bande dessinée et la peinture, mais je suis aussi attaché à l'égalité, au fait que la pensée est capable, l'idéal de la pensée, pour moi, c'est de distinguer et de rendre égal. Et de rendre égal et de distinguer.
Alors bon, je ne suis pas sûr que la discrimination, au sens où je l'emploie, soit réactionnaire, mais c'est sans doute un autre sujet.
Ce qui n'est pas un gros mot pour moi, c'est
oui.
Simplement que c'était
oui.
Une position
français,
de pensée.
En français, c'était un gros mot quand même. Donc,
c'est une tradition de pensée, comme c'est une tradition.
Oui, mais je ne m'inscris pas dans cette tradition.
Ce qui me semblait, c'est que vous tombiez sur une sorte d'aporie moderne qui est que à chaque fois qu'on parle et qu'on est accusé d'essentialiser cette accusation récurrente et grotesque, puisqu'on est bien obligé d'avoir des concepts, d'avoir des pour réfléchir. Donc vous essayez de sortir de cette intimidation sans être réactionnaire, dites-vous. Donc comment se débrouiller pour avoir des concepts, pour avoir des distinctions et je trouve que c'est une bonne opération d'essayer, et je vous redis que ce qui me gêne, c'est le refus d'ordonner par la pensée. Oui. C'est-à-dire que mettre toujours la rationalité dans une position ancillaire, dire la raison c'est de la rationalisation, ça vient après, mais ça n'a pas de pouvoir commandant sur nos vies, on ne peut pas ordonner par la pensée, là c'est une démission que je trouve dangereuse.
Bon, là, je pense que votre débat, il n'est pas clos, mais en tout cas, il est clair. Et je voudrais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de Montesquieu. Montesquieu est le bonheur. Vous avez cité ce conseil, cette prescription de Montesquieu. Pour être heureux, il faut penser au bonheur 10 minutes par jour, c'est
oui,
ça ?
Oui, il m'impressionne beaucoup, Montesquieu.
Oui, mais c'est très intéressant que vous ayez été utilisé le mot bonheur. Parce que le mot bonheur fait partie aussi du vocabulaire des modernes. C'est Robert Mosy qui a consacré une très belle thèse à l'idée de bonheur au XVIIIe siècle. Et le bonheur, justement, ne se confond pas avec l'intensité. C'est une aspiration que défend, de manière assez paradoxale, contre un certain romantisme, Kierkegaard, que nous avons cité tout à l'heure. Il parle à un interlocuteur dans un texte intitulé « La valeur esthétique du mariage ». « Il n'y a de vie, crois-tu, que dans l'inquiétude de l'esprit. Pour toi, l'océan déchaîné offre l'image de la vie. Pour moi, je la trouve en contemplant le calme profond des eaux. Souvent, je m'arrête au bord d'un ruisseau. Il fait toujours entendre la même douce chanson. Les mêmes herbes inclinent au fond sous le courant paisible. Les mêmes bestioles s'y meuvent. Un petit poisson se faufile sous une cachette de fleurs, il étend ses nageoires contre le courant, il se dissimule sous une pierre, quelle uniformité et pourtant quelle profusion de changements, la vie domestique des époux est ainsi paisible, modeste en son murmure. Et Claude Habib, dans votre dernier livre de romans, 2 ou 3 nouvelles du diable, vous racontez un moment amoureux entre deux personnages et le mot d'intensité n'apparaît pas. C'est un bonheur liquide au sens kierkegaardien puisque vous dites « nous vivions dans l'effusion, La réalité n'offrait aucune résistance, c'était comme l'eau libre qui clapote sous la coque d'un bateau, la corolle offerte à l'abeille ou le pré qui plie sous le vent. Le monde s'était fait caresse, autant le malheur est précis, autant le bonheur est flou. Une nuit très douce enveloppe le futur et le présent paraît devoir durer toujours. L'amour et soulagement de tout, j'ai vécu 15 jours dans cette apesanteur. C'est pas tout à fait la même expérience, mais oui, que faites-vous justement dans cette réflexion sur l'intensité, dans cette opposition même entre la vie intense et la pensée égale de l'idée de bonheur, Tristan Garcia?
J'imagine que pour l'idée de bonheur, il faudrait que je retourne vers mon autre activité, celle de romancier, moi aussi. Le bonheur, est, même si c'est aussi une obsession moderne, c'est une vieille idée, c'est une plus vieille idée en Europe. Donc, au fond, ce qui m'intéressait dans l'intensité, c'était probablement ce qui vous rend aussi suspicieux, c'est-à-dire sa capacité beaucoup plus que le bonheur à se détacher de ses causes, à se détacher de son moment, de son lieu, et à devenir un terme abstrait. Donc, au fond, la description qui est faite dans votre ouvrage du bonheur me convient tout à fait, mais aussi parce qu'elle est localisée et parce qu'il n'y a pas. Il m'a toujours semblé extrêmement difficile, et les philosophes qui l'ont tenté, je sais pas, Aristote par exemple, d'arracher le bonheur à ses conditions concrètes, à son ici, à son maintenant, ça me semble en général voué à l'échec. Donc, vous voyez, par exemple, ma volonté de ne pas légiférer va jusque-là, c'est-à-dire au fond sur le bonheur, je pense qu'en fait le philosophe n'a pas grand-chose à dire. Et c'est tant mieux.
Que vous le mettez sous le registre de la chance.
Oui.
D'accord, ce qui arrive. Oui. D'accord.
Et le romancier, me semble en général beaucoup mieux armé pour caractériser un bonheur que le philosophe. Enfin, la joie, c'est différent. Par exemple, la joie, ça peut. Il y a des caractérisations philosophiques et plus abstraites. Le concept de joie peut avoir un sens. Le concept de bonheur est plus compliqué.
Enfin, le risque de l'intensité, même, je suis d'accord avec vous, le bonheur dépend de la chance ou de circonstances, mais le risque quand même d'une culture de l'intensité, si l'on peut dire, c'est l'émoussement du goût. Plus on cherche à se donner à ce courant de vie, moins on est capable de distinction fine.
C'est-à-dire
entre la nuance et l'intensité, tu dois choisir à un moment. L'intensité te fait perdre la perception même de la nuance.
Parce que je disais tout à l'heure. La finesse du goût au sens
jungien. La finesse du goût, absolument.
La finesse ou la subtilité jungienne.
Donc faut pas voir que nous avons tout à gagner à la modernité finissante.
Mais dans le goût de la vie commune. Je le disais en commençant, Claude Habib, vous risquez à une certaine réhabilitation de l'ennui. Or, peut-être ne faut-il pas aller jusque-là, mais penser qu'en contre cette obsession de l'intensité, qu'il peut y avoir aussi un bonheur de la monotonie. Une douce loi de la répétition, comme le montre Kundera dans le dernier chapitre idyllique de l'insoutenable légèreté de l'être, et que ça peut faire partie aussi des aspirations légitimes des humains que nous sommes, anciens ou modernes, réactionnaires ou progressistes.
La vie simple aux travaux ennuyeux et facile est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. C'est du Verlaine. Bien évidemment, il n'y a pas que l'électrisation, la fée électricité et sa magie. Bien entendu, quand je faisais une défense de l'ennui, Alain, je voulais absolument pas dire ce qu'il peut y avoir d'angoissant dans une vie qui perdrait tout ressort. Bien évidemment, ce dont je parlais, c'est cette monotonie douce et ce goût d'une certaine grisaille où, justement, la nuance est visible. La nuance qui seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. Les demi-teintes qui permettent l'intelligence de l'autre. C'est-à-dire que la compréhension de l'autre, elle se fait sur le long terme et donc avec la traversée de ce temps-là, qui n'est plus le temps de
Il peut y avoir aussi une chance de la modernité, parce que je citais tout à l'heure ce très beau texte de Kierkegaard, mais dans le même chapitre, il a une évocation qu'il veut idyllique et qui, moi, me fait peur, l'évocation du foyer et de la femme qui attend à la maison. J'ai sonné, elle sait que j'ai coutume d'arriver au coup de cloche. Nous autres pauvres fonctionnaires, nous avons sur ce point-là aussi le désavantage de ne pouvoir venir près de nos femmes à l'improviste. Elle connaît mon coup de sonnette. Alors, entrée dans le vestibule, quand j'entends le tapage des enfants où elle mêle sa voix, quand je la vois venir à la tête de la petite troupe, si enfant elle-même qu'elle semble rivaliser d'allégresse avec les marmots, alors je sens que j'ai un chez-moi. Et c'est une forme de foyer qui n'existe plus vraiment, mais je crois que la liberté des femmes, le fait qu'elles vont et viennent, est un risque, mais aussi
la liberté
une chance.
Des femmes n'empêche pas l'attente des femmes.
Elle n'empêche pas l'attente que des femmes, enfin l'attente des femmes au double sens du génitif, mais elle, si vous voulez, la sécurité n'étant pas donnée, il y a une chance aussi, là, me semble-t-il, pour l'intensité, au sens que Tristan Garcia donne à ce terme. Enfin, j'ai dit ça tout simplement pour que vous ne me traitiez pas de réactionnaire, Tristan Garcia.
Je précise, c'est pas du tout une, c'est pas du tout une insulte à mon sens. On aurait déjà, on serait sorti par le haut du XXe siècle si on arrivait à caractériser des termes tels que moderne, contemporain, réactionnaire comme des options de pensée et comme des traditions. Et non pas comme étant strictement attaché au présent, des positions sur le présent. Sur Kierkegaard, ça me rappelle, il y a un très beau texte d'Adorno dans son Kierkegaard de jeunesse, où Adorno analyse l'intérieur bourgeois, la figure de l'intérieur bourgeois chez Kierkegaard, et il voit une figure qui une sorte de métaphore de l'intériorité, hein, du refuge, de la forteresse de la subjectivité qui essaye d'échapper au monde, et il décrit cet intérieur comme s'offrant irrémédiablement à la poussière, au poussiéreux.
Ça vaut peut-être mieux que le boucan de la fête foraine.
Je sais pas, entre le poussiéreux et la fête foraine, je crois que j'irai quand même à la fête foraine.
Bon, bah, très bien. Merci beaucoup pour cette conclusion, Claude Habib et Tristan Garcia. Je rappelle, Tristan Garcia, le titre de votre livre, La vie intense, une obsession moderne. Il est publié aux éditions Autrement. Votre roman 7 vient d'obtenir le prix Inter. Claude Habib, vous avez écrit Le goût de la vie commune chez Flammarion. Et votre dernier roman s'intitule Deux ou trois nouvelles du diable. Il est publié aux éditions de Fallois. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le prix du silence. Mes invités seront Alain Corbin et Sylvain Tesson. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.